À l'écoute de RFI, 18h en temps universel, 19h ici à Paris.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, Israël qui continue de bombarder Gaza.
Israël intensifie même ses opérations militaires depuis deux jours et lance, je cite, un dernier avertissement aux Gazaouis. Si le Hamas ne libère pas les otages, le Hamas se dit ouvert aux négociations. La guerre en Ukraine, Donald Trump, Volodymyr Zelensky au téléphone. Le président américain a l'air de changer de ton à l'égard du président ukrainien. Il propose désormais à l'Ukraine davantage de systèmes de défense antiaérienne. Donald Trump qui par ailleurs se fait rappeler à l'ordre par la Cour suprême américaine. La plus haute instance judiciaire des États-Unis n'a pas apprécié l'appel lancé par le président américain à destituer un juge fédéral. C'est le dossier de notre édition.
Et Donald Trump qui est au cœur de l'actualité tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Demain, ça fera deux mois que son mandat a débuté. Deux mois qui ont bouleversé le monde, titre Le Figaro dans son édition à paraître demain jeudi. Nous appellerons nos collègues pour faire le point de ce début de mandat mené tambour battant.
Nous sommes aussi en Turquie dans un instant. Le principal opposant politique à l'actuel président turc arrêté par la police. Il s'appelle Ekrem İmamoğlu, c'est le maire d'Istanbul. Et dès l'annonce de son arrestation, des manifestants sont descendus dans les rues. Reportage à suivre. Et puis enfin, le président somalien qui échappe à un attentat. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus.
Des milliers d'Israéliens manifestent à Jérusalem au pied de la résidence du Premier ministre.
Avec un mot d'ordre, non à la reprise des combats à Gaza, oui à la libération des otages. Benjamin Netanyahou a décidé de reprendre la guerre. Les bombardements israéliens ont déjà coûté la vie à plus de 400 personnes à Gaza durant les dernières 48 heures selon le Hamas. La rue israélienne, en colère, voit en cette reprise des frappes une manœuvre politique cynique de Benjamin Netanyahou dont l'objectif est de se maintenir au pouvoir. RFI Jérusalem, Sami Bouhelifa.
Maya porte un t-shirt avec les portraits de ses neveux Gali et Ziv Berman, des jumeaux otages du Hamas.
Chaque jour supplémentaire qu'ils passent dans ces tunnels à des dizaines de mètres sous terre met leur vie en danger. Les otages précédemment libérés nous ont raconté à quel point ils se sentaient en danger lorsqu'il y avait des bombardements. Tous les otages sont donc en danger et mes neveux Gali et Ziv le sont aussi.
Pour Talia, en reprenant la guerre, Benjamin Netanyahou a décidé d'abandonner les otages.
Il fait son possible pour que les otages ne soient jamais libérés. Il le sait, si les otages sont libérés et que tout s'arrête, son gouvernement tombera. Netanyahou a conclu un pacte avec l'extrême droite israélienne. Ces gens se préoccupent davantage de s'accaparer la terre que de la vie humaine. Ils sont dénués de toute morale.
À ses côtés, Irit appelle à la fin immédiate de la guerre pour sauver les otages israéliens et les Gazaouis.
Cette guerre brutale n'aurait jamais dû avoir lieu. Je ne pense pas que les Gazaouis doivent être tenus pour responsables. Je suis désolée de ce qui leur arrive, vraiment.
Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Actualité aussi dominée par ce bombardement au Yémen. Des frappes ont ciblé les environs de la ville de Saada et ainsi que la province d'Al-Badia au centre du Yémen. C'est ce qu'annonce un des médias des Houthis. Ce média, Al-Masira, accuse les États-Unis d'être à l'origine de ces bombardements.
Très bon appel, ce sont les mots de Donald Trump après son échange avec Volodymyr Zelensky ce mercredi par téléphone.
Et même son de cloche côté ukrainien. À l'instant, Volodymyr Zelensky dit avoir eu une conversation positive et franche avec son homologue américain. Un coup de fil où le président Trump a rendu compte du coup de fil de la veille inédit qu'il avait eu avec le Vladimir Poutine. Chef d'État russe et américain ont négocié une trêve de 30 jours sur les infrastructures énergétiques. Théo Renaudon, bonsoir.
Bonsoir.
Donald Trump en est sûr, Russie et Ukraine sont sur la bonne voie.
Oui, c'est ce qu'affirme le président américain au sortir de ce coup de téléphone. Premier échange de vive voix entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky depuis l'entrevue tendue, on s'en souvient, à la Maison-Blanche fin février. Conversation ici qui a duré une heure et dont les infos tombent au compte-gouttes pour le moment.
Pourtant, 24 heures après l'annonce de ce cessez-le-feu, Théo, sur les infrastructures énergétiques, Russie et Ukraine s'accusent mutuellement de nouvelles attaques.
Chacun dit que c'est l'autre qui a violé la trêve la nuit dernière. La Russie a lancé de nouvelles frappes contre l'Ukraine, selon Kiev, notamment contre des infrastructures électriques dans le sud du pays. Les Russes, eux, affirment que c'est un terminal pétrolier qui a été visé par les Ukrainiens, provoquant un important incendie. Seule application de l'accord de ce mardi, 372 prisonniers de guerre ont été échangés, plus d'importantes opérations depuis le début de la guerre.
Théo Renaudon dans cette édition internationale.
Et vous écoutez RFI, il est 14h05 à Washington. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir, présenté par Adrien Delgrange. Adrien, on en vient au dossier de cette édition. Il est consacré au bras de fer qui est en cours aux États-Unis entre Donald Trump, le président, et la justice de son pays.
Pour revenir notamment sur plusieurs décisions judiciaires qui s'opposent aux décisions du président américain. Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons Nicolas Falaise. Bonsoir.
Bonsoir.
Commençons tout d'abord, Nicolas, par revenir sur ce rappel à l'ordre qui en dit long. Le président de la Cour suprême américaine a réagi à des propos vitriols de Donald Trump contre un juge américain.
Oui, on va tenter de résumer ça en quatre actes. Hein. Premier acte, samedi dernier, Donald Trump ressort des cartons une loi de 1798 pour tenter d'expulser des membres présumés d'un gang vénézuélien. Acte 2, la justice est saisie, un juge suspend l'utilisation de cette loi, ce qui n'empêche pas l'expulsion de 200 personnes. Acte 3, Donald Trump s'en prend à ce juge qui s'est mis en travers de sa route et réclame sa destitution. Acte 4, donc, la Cour suprême, par la voix de son président John Roberts, rappelle à Donald Trump que la destitution d'un juge n'est pas appropriée lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision de justice. Analyse de ce recadrage avec un spécialiste du droit américain, Sébastien Natrol.
C'était une remarque rare. Il est très rare que le Chief Justice de la Cour suprême se permette de commenter l'actualité ainsi. Et c'est un signal plutôt positif qui peut laisser penser que la Cour suprême conserve quand même une certaine indépendance et une certaine vision de l'état de droit qui est plutôt salvatrice hein, et plutôt de nature à rassurer compte tenu du contexte actuel.
Et ce contexte actuel, c'est celui de l'offensive généralisée menée contre la justice américaine, mais les revers se multiplient ces jours-ci.
Oui, un juge fédéral bloque la décision de Donald Trump de reprendre 20 milliards de dollars de subventions qui avaient été allouées à des organisations de défense de l'environnement. Un autre juge fédéral suspend l'interdiction des personnes transgenres dans l'armée américaine. Un tribunal juge que la suppression de l'agence américaine de développement USAID est, je cite, « probablement inconstitutionnelle ». On pourrait mentionner d'autres exemples qui ont tous la même conséquence, provoquer la colère du président américain, de ses équipes et de ses partisans.
Enfin, Nicolas, sur quel terrain va se jouer la bataille en cours aux États-Unis entre le pouvoir exécutif et la justice?
Alors, nous avons posé la question à Sébastien Natrol, spécialiste du droit américain. Selon lui, il faut scruter ce qui se passe du côté des agences fédérales américaines que Donald Trump et son allié Elon Musk souhaitent fermer ou réduire ou reprendre en main.
C'est crucial dans la mesure où le Congrès avait décidé d'avoir des agences plus ou moins indépendantes, en tout cas isolées du pouvoir politique exécutif et des remous de ce pouvoir exécutif, amené à changer plus ou moins tous les 4 ans en fonction des majorités politiques. Et la volonté de Trump, c'est de se plier à la lecture qui a été faite par la droite conservatrice de l'article 2 de la Constitution, qui postule que le pouvoir exécutif appartient au président des États-Unis, et de remettre ses agences fédérales sous sa férule, de manière à pouvoir appliquer son programme politique comme bon lui semble.
Ces agences fédérales américaines couvrent de nombreux domaines, sécurité, économie, santé, éducation. Question, la justice américaine pourra-t-elle leur servir de rempart face au projet de Donald Trump?
C'était le dossier de notre édition de 19h, signé Nicolas Falaise.
En Turquie, l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu fait sortir ses partisans dans la rue.
Dans les grandes villes du pays, des foules se rassemblent devant les bureaux du CHP, le Parti républicain du peuple, principal parti d'opposition en Turquie. Car ce matin, à l'aube, le maire d'Istanbul et élu de ce parti, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté par la police. Il est aussi le plus grand rival du président actuel, Recep Tayyip Erdogan. Il est accusé à la fois de lien avec le terrorisme et de malversation dans sa gestion de la mairie d'Istanbul qu'il dirige, une manœuvre politique pour les nombreux soutiens du maire. Anand Lower pour RFI était devant le siège du CHP à Ankara.
De la colère sur les visages, des slogans combatifs, tous ensemble contre le fascisme, les partisans du CHP sont venus dire qu'ils n'acceptent pas l'arrestation du maire d'Istanbul et plus généralement ce qu'est devenu leur pays, comme Gülten, une retraitée à l'écharpe rouge.
S'il n'y a pas de démocratie, à quoi ça sert d'organiser des élections? Si c'est pour arrêter, pour destituer ceux que nous avons élus, on en aura le bol. Ça suffit, ça suffit, ça suffit.
Dans cette foule, personne ne semble abattu. Ils disent tous qu'ils gardent espoir, que le régime actuel, cette répression toujours plus forte, ne sont pas tenables. Nihat, un fonctionnaire.
On résistera coûte que coûte. Ce parti a bien résisté au coup d'état militaire de 1980. Là, c'est pareil, ils ne nous feront pas plier.
Et pourtant, plus qu'avant, certains refusent de parler au micro ou mettent en garde ce qu'ils font. Métine est déçu de l'affluence devant le siège du CHP.
On aurait dû être des dizaines de milliers. Le pouvoir a réussi à instiller la peur. Alors que tout ce dont il est question, c'est de défendre notre droit et notre voix.
Malgré l'incertitude sur le sort d'Ekrem İmamoğlu, le CHP assure maintenir la primaire qui doit avoir lieu dimanche pour le désigner comme son candidat à la présidentielle. Anand Lower, Ankara, RFI.
Elle est l'actualité à présent sur le continent africain et le président somalien qui a échappé à un attentat.
À Mogadiscio, sur la route de l'aéroport, le cortège du chef de l'État a été pris dans une violente explosion. C'était hier. Les Chebabs ont depuis revendiqué l'attaque. Et d'après un communiqué de la présidence, le président Hassan Cheikh Mohamed n'a pas été touché, mais des victimes civiles sont à déplorer. Correspondance, Gaëlle Lalex.
Vers 10h30 hier matin, un immeuble du centre-ville de Mogadiscio explose alors que le convoi présidentielle passe à proximité. Des images diffusées par les médias somaliens montrent des voitures blindées déformées par la déflagration. Nos combattants ont visé le président Hassan Cheikh Mohamoud, revendique quelques heures plus tard le groupe Al-Shabaab sur son canal Telegram. L'attaque a été déjouée et le président est arrivé sain et sauf à destination, explique le communiqué de la Villa Somalia, la présidence qui dénonce un acte lâche qui a tué plusieurs civils innocents. La destination d'Hassan Cheikh Mohamoud, c'est Adan Yabal, dans l'état du Moyen Chabélé, dans le sud-est du pays. Depuis plusieurs jours, les Chebabs et les troupes fédérales somaliennes s'y affrontent violemment. Mardi, les États-Unis ont opéré plusieurs frappes de drones dans la région à la demande du gouvernement somalien, explique un communiqué d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. C'est la deuxième attaque que subit le président Mohamoud. La première était en 2014, lors de son précédent mandat. Une bombe avait alors explosé dans l'hôtel où il tenait un discours. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Retour à Paris, 19h12 dans la capitale française. L'actualité en France, c'est ce point d'interrogation quant à la suite des réunions entre les syndicats et le patronat concernant la réforme des retraites.
La prochaine réunion est fixée à demain, mais après le départ de la table des négociations de l'organisation patronale UDP, de Force ouvrière, dès leur début, c'est maintenant la CGT qui menace de claquer la porte. La faute aux déclarations de François Bayrou qui a exclu la possibilité d'un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Mais aujourd'hui encore, le gouvernement maintient son cap à l'Assemblée nationale. Stéphane Duguay.
Malgré les déclarations du Premier ministre sur l'âge de départ à la retraite, rien ne bouge, jure devant les députés la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet.
Les règles du jeu ne changent pas. Nous pensons que ces discussions doivent se poursuivre et aller jusqu'à leur terme.
Quitte à ouvrir la discussion à d'autres sujets, dit-elle, mais elles doivent rester guidées par l'impératif d'équilibre des finances publiques, affirme le député macroniste Jean-René Cazeneuve.
Ceux qui disent qu'on peut travailler jusqu'à 62 ans mentent aux Français. La démographie fait que, hélas, il faut travailler plus. C'est une vérité qui s'impose à nous.
Pour lui, ce conclave des partenaires sociaux a encore une légitimité, mais au sein de l'alliance gouvernementale, des voix contraires se font entendre. Le député Horizon Frédéric Valletoux demande l'arrêt de ces réunions.
On est dans une période de crise internationale. L'économie française est interrogée sur sa capacité à se réarmer. C'est ça les questions de fond. C'est pas la question de revenir sur une réforme qui, bon an mal an, a déjà été votée.
Sauf que ces négociations devaient aboutir sur un texte présenté à l'Assemblée nationale, condition pour que les socialistes ne renversent pas le gouvernement, rappelle la députée Diana Badiop.
Le débat doit revenir au sein de l'Assemblée nationale. Et si ça n'était pas le cas, nous en tirerons toutes les conséquences. S'il n'y a pas d'autre moyen que de faire entendre raison au Premier ministre, oui, on votera la censure.
Alerte sérieuse pour François Bayrou, dont l'avenir politique est conditionné à ces négociations sur les retraites.
À l'autre bout du monde, en soutien aux retraités qui ont vu leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. En Argentine, nouvelle manifestation dans moins d'une heure. Le centre de la capitale Buenos Aires est quadrillé par la police.
Enfin, Mexico vient de changer les règles des corridas.
Des corridas Sans violence, il sera désormais interdit de blesser ou de tuer le taureau. Pour autant, ces changements de règles ne plaisent pas aux pro-corrida. Reportage Gwendolina Duval.
Encadrés par la police qui bloque la circulation, des dizaines de manifestants se sont assis au milieu d'une artère principale de Mexico. Les passionnés dénoncent un acharnement politique sur la corrida. Isabelle Carrera.
Soy taurina desde los 4 años.
Je suis fan de tauromachie depuis mes 4 ans. Ils vont à l'encontre des libertés individuelles de chaque personne en décrétant ce que l'on peut voir ou non. Les politiques devraient être beaucoup plus préoccupés par la violence du pays et ne pas s'opposer à une tradition pleine de valeurs.
Selon les nouvelles règles, seul l'usage des capes, capotés et muletas sera autorisé. Les cornes du taureau seront couvertes, les épées et banderilles interdites. Blesser l'animal sera susceptible d'amende. Jorge Arriega soutient que ça n'a pas de sens. Le jeune toreo se dit extrêmement triste.
Ces taureaux de combat vont mourir dans des abattoirs anonymement. C'est lâche. Cette nouvelle idéologie de vouloir humaniser les animaux nous déshumanise totalement. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à la pêche sportive, à la chasse ou à l'équitation?
La corrida reste légale et pratiquée dans de nombreux autres États au Mexique. La capitale fait figure d'exception. En 2017, elle avait inscrit dans sa constitution la reconnaissance des animaux comme des êtres sensibles. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et c'est à Mexico que je vous laisse Romain Ozoui pour la suite d'RFI Soir.
Et on atterrit à Paris, c'est incroyable, la radio mondiale. Merci beaucoup Adrien Delgrange, c'était Grand Journal du Soir sur RFI à Paris où il est 19h16.
Romain Ozoui.
Alors il est au cœur de l'actualité tous les jours. Hein. Demain ça va faire 2 mois que le mandat de Donald Trump a débuté, 2 mois qui ont bouleversé le monde. Titre Le Figaro dans son édition à apparaître demain jeudi. On appellera nos collègues pour faire le point sur ce début de mandat mené tambour battant. Et puis en France, ils sont censés être confiés dans des structures dédiées, mais de nombreux mineurs non accompagnés se retrouvent dans des hôtels. Illustration à suivre au sud de Paris, alors que l'évacuation tôt ce matin de la Gaîté Lyrique, lieu culturel parisien, eh bien pose question. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Romain.
Allez, le foot pour débuter. Vous avez entre vos mains les premiers résultats de la 5e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. 3 matchs viennent tout juste de se terminer. Au bout du monde, le Cameroun s'est cassé les dents sur le petit poussé du groupe D.
Avec un 0-0 face à Eswatini, 159e équipe au classement mondial de la FIFA. Un résultat forcément décevant pour les Camerounais qui peut s'expliquer en partie par le voyage chaotique des Lions Indomptables arrivés la nuit dernière à Mbombela en Afrique du Sud. La première place de la poule est fragilisée et pourrait profiter à la Libye si les joueurs du Sénégalais Aliou Cissé s'imposent demain face à l'Angola. Le gros coup de la journée est lui signé Madagascar. Les Baréas ont cartonné face à la République centrafricaine 4-1, avec notamment un doublé de Ryan Ravelosson, l'ancien de la JOCR passé au Young Boys de Berne en janvier dernier. Le match était délocalisé à Casablanca et il permet aux Malgaches de prendre provisoirement la tête du groupe I. Enfin, le dernier match au programme du jour a vu la Tunisie dominer 1-0 le Liberia à Monrovia grâce à un but de l'attaquant de Monastir, Azem Mastouri. Les Aigles de Carthage dominent largement le groupe H.
Allez, en Europe, l'équipe de France, ça y est, arrivé aujourd'hui à Split en Croatie, les Bleus qui vont disputer demain leur quart de finale aller de Ligue des Nations face à la Croatie du coup.
Et demain, le brassard de capitaine sera sur le bras de Kylian Mbappé. Absent lors des rassemblements d'octobre et novembre, l'attaquant du Real Madrid revient avec ambition. Mais comment se sont passées ces retrouvailles avec ses coéquipiers? Comme au bon vieux temps, d'après Mbappé, est déterminé à dissiper les derniers malentendus sur un épisode visiblement totalement digéré par le groupe.
Non, c'était plus la joie de retrouver le groupe, de retrouver la sélection, de retrouver le château. Je pense que la plupart des coéquipiers qui sont là, on se parle très souvent, on se parle quasiment tout le temps. Il y en a beaucoup avec qui je suis parti en vacances. Il y en a beaucoup que je côtoie souvent, avec qui je parle beaucoup. Donc c'était plus de se retrouver dans le contexte équipe de France qui manquait et qui faisait plaisir. Donc pas forcément donner des explications, parce que je pense que dans le groupe, l'explication, elle était très claire. Comme j'ai dit, cette situation, elle était peut-être floue pour les gens dehors, mais en interne, elle a toujours été très claire.
Croatie-France, demain à 19h45, temps universel.
et puis le CIO, le Comité international olympique, qui va connaître son nouveau président demain. Le successeur de l'Allemand Thomas Bach sera élu à Costa Navarino, c'est dans le sud de la Grèce.
7 candidats sont en lice pour prendre le fauteuil de celui qui était en poste depuis 2013. Le scrutin est indécis. Parmi les candidats cités le plus souvent dans les pronostics, il y a le Britannique Sebastian Coe, président de World Athletic, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch, homonyme de son père, ancien président du CIO, ou encore celle qui représentera l'Afrique, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry. Beaucoup de votants n'ont pas encore tranché. C'est le cas de Martin Fourcade, le sextuple champion olympique de biathlon, qui ne pourra pas voter réglementairement tant que le candidat français David Lapartien sera en course. Mais si jamais ce dernier est éliminé, il assure que son choix serait alors cornélien.
On a des candidats qui sont très différents, à la fois de par leur passé et puis aussi de par leur style. Ça mélange plein de choses, entre un leadership qui est quand même nécessaire pour gérer une organisation comme le CIO et pour représenter le mouvement sportif dans son ensemble, et puis d'autres symboles aussi qui sont importants à mes yeux, quelle image du mouvement olympique, comment on veut projeter le mouvement olympique vers demain. Donc en fait, c'est une combinaison de plein de facteurs. Il y en a certains qui cochent plus de facteurs que d'autres, mais le candidat idéal, finalement, c'est un petit peu un mélange de tous ces candidats-là aussi. Donc c'est un choix qui n'est pas facile, pour être honnête, je ne l'ai pas encore fait. Et puis surtout, pour l'instant, je ne suis pas sûr de voter, parce qu'il y a deux configurations dans lesquelles je ne voterai pas. La première, c'est que le membre français est élu président du CIO. La seconde, c'est que la majorité soit atteinte avant que le membre français ne soit sorti. Et donc dans ces deux configurations-là, je ne voterai pas, et donc je n'aurai pas eu à faire de promesses inutiles à tout le monde.
Martin Fourcade, membre français du CIO, au micro de Christophe Diremzio.
Et dans le journal des sports de Babacar Diarra, 14h21 à Washington. Aux États-Unis, Donald Trump mène son mandat tambour battant, c'est le moins qu'on puisse dire. Demain, jeudi, cela fera déjà 2 mois que le président est de retour à la Maison-Blanche. Bonsoir Jacques-Olivier Martin.
Bonsoir Romain.
Depuis la rédaction du Figaro, alors cette actualité figurera à la une de votre édition de demain, avec ce titre « 2 mois qui ont bouleversé le monde ». Est-ce que vous pouvez déjà justifier ce titre ?
Oui, pour être honnête, on vit la tornade Trump comme vous au Figaro. C'est tous les jours, des annonces, la nuit, le matin. Et on essayait de se dire, en abordant un peu ce sujet, 60 jours, c'est rien pour un président. On s'est dit, mais comment on peut l'aborder ? Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un mini fil rouge. C'est l'homme qui est en train de bouleverser le monde, ce deuxième mandat de Trump. Alors c'est notre angle, on est parti dans cette direction-là, 5 pages, pour essayer de revenir sur ce qui s'est passé depuis 60 jours et tenter de l'analyser. Donc on a ce fil rouge, donc c'est cette notion de bouleversement dans la façon de faire de la politique, c'est décret à l'appel tous les jours, c'est bouleversement aussi avec la façon de traiter ses alliés européens qui ne s'en remettent pas depuis 60 jours, de faire du commerce avec cette politique des droits de douane qu'on croyait franchement obsolète, surtout après les échecs de sa mise en œuvre déjà lors de son premier passage à la Maison-Blanche. Et puis aussi totalement bouleversement quand on repense les alliances géopolitiques, on peut les imaginer partout, mais jouer par exemple à l'est de l'Europe Poutine plutôt que Zelensky, on le redoutait, mais on y assiste. Voilà pourquoi on est parti dans cette direction.
Un bouleversement donc, mais est-ce qu'il donne des résultats 2 mois après l'investiture de Donald Trump ?
Alors, pour être honnête, comme il va très vite dans le bouleversement, on a adoré que ça redessine quelque chose dès maintenant. Alors, il faut lui rendre quand même que soit en 60 jours, on peut casser pas mal de choses, ou en tout cas remettre en question pas mal de choses, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu tôt pour voir si ça permet de reconstruire quelque chose. Il n'empêche que cette politique, franchement, de la remise en question, du bouleversement, c'est pas sûr qu'elle permette d'aboutir là où en tout cas il veut aller. Sur la partie économique, par exemple, aux États-Unis, on sent qu'il y a des tensions de ralentissement économique, de retour de l'inflation. L'inflation, les Américains n'en veulent pas. On connaît l'affaire des œufs en ce moment. Donc, finalement, on se rend compte qu'il brise des choses, mais c'est pas sûr qu'il réussisse à avoir les résultats économiques ou certains résultats pour l'Amérique. Sur l'Europe, c'est la même question qui se pose. On se la pose tous les jours en ce moment, de savoir comment, dans ce nouveau contexte, il va falloir qu'on essaie de se retrouver, que l'Europe se stabilise ou en tout cas arrive à retrouver son autonomie dans un monde où elle est lâchée par son plus grand allié, qui est l'allié américain depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, dans le monde entier, alors on parle pas trop de la Chine, mais partout ailleurs, tout le monde est à peu près perdu et on ne sait pas où tout ça va aboutir. Donc pour l'instant, les résultats, on ne les voit pas.
Alors l'actualité du jour, justement, concernant Donald Trump, elle concerne l'Ukraine. Et vous faites, dans le Figaro, un éclairage sur l'Ukraine.
Oui, bien sûr, puisque c'est quand même un des éléments clés, en tout cas sur la géopolitique et sur ce qui nous concerne. On a plusieurs papiers, des papiers d'analyse géopolitique de l'évolution de ces 60 jours sur, effectivement, la géopolitique européenne et les relations avec l'Ukraine et avec la Russie, mais on a été aussi un peu plus prosaïque, et on va traiter aussi l'actualité du jour, c'est-à-dire ce coup de fil entre Zelensky et Trump. On analyse également la Russie. En revanche, quand on parle de l'international, on parle très peu de la Chine dans cet événement qu'on a décidé de faire, parce que c'est peut-être sur cette relation avec la Chine, ou en tout cas sa vision vis-à-vis de la Chine, que le Trump a le moins changé, ou en tout cas qu'il est le moins imprévisible. C'est peut-être pour ça qu'on en parle moins.
Donald Trump, 2 mois qui ont bouleversé le monde. Donc, dossier à retrouver à la une du Figaro ce jeudi et évidemment sur votre site internet. Merci Jacques-Olivier Martin.
Merci Romain.
Allez, cette question. À présent en France, que va-t-il advenir des centaines de jeunes migrants qui ont été délogés ce matin de la Gaîté Lyrique, ce lieu culturel parisien qu'ils occupaient depuis plus de 3 mois? Beaucoup parmi eux sont des mineurs. Et il faut savoir que depuis 1 an, l'aide sociale à l'enfance en France a l'obligation de placer les moins de 18 ans qui lui sont confiés dans des structures dédiées. C'est loin d'être le cas, beaucoup sont hébergés dans des hôtels où très peu de suivi social et éducatif sont assurés. Illustration dans l'Essonne, au sud de Paris, au moins 7 hôtels hébergeraient des jeunes étrangers, selon une estimation de l'association Utopia 56. Amélie Beaucourt s'y est rendue pour rencontrer 2 adolescents camerounais qui attendent une solution depuis plusieurs mois. Reportage.
Là, il est 23h, tu es en train de dormir et tu entends l'alarme comme ça. Là, c'est quelqu'un qui a fumé dans la chambre. C'est tout le temps comme ça. Mais tu peux pas dormir. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. Voilà, c'est comme ça.
Sur son portable, Théodore montre les images filmées à l'intérieur de la chambre d'hôtel où l'aide sociale à l'enfance l'a placée provisoirement. Impossible de passer une nuit tranquille, il ne s'y sent pas en sécurité.
Je ne veux pas mélanger des mineurs avec des majeurs et des gens qui viennent polluer l'hôtel et faire autre chose. Les toilettes, elles ne sont pas hygiéniques. Donc à tout moment, toi, tu peux prendre une infection ou même les stupéfiants. Ça se fume souvent dans les douches là-bas.
Très vite, les jours se transforment en semaines, puis en mois. Il se lie d'amitié avec Sial, un autre jeune de 16 ans comme lui, qui attend d'être placé dans une structure adaptée.
Je suis resté 10 mois, alors que normalement on était censé faire quelques semaines. Et on devait me placer dans une structure, mais jusqu'à présent, pas de suite.
Pourtant, comme le rappelle l'avocate Johan Sfaoui, la loi Taquet adoptée en 2022 encadre strictement le placement des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, qu'ils soient français ou étrangers.
Il y a, par la loi, une interdiction absolue de placer des jeunes dans des hôtels. C'est très clair. En cas d'urgence, une dérogation est possible, mais les mineurs seront placés pendant une durée maximum de 2 mois dans les centres de vacances et les structures de jeunesse.
Les passages des intervenants sociaux sont rares et les journées sont longues pour les 2 garçons qui, malgré leurs évaluations de niveau, ne sont toujours pas scolarisés.
Ils ont dit qu'ils vont chercher une école pour mes mères jusqu'à présent. Pas du tout.
Et toi ?
Ils m'ont dit que j'allais normalement rejoindre un lycée, mais que je dois attendre jusqu'en septembre.
Et en attendant ?
En attendant, on tourne, le soir on revient, on se couche, le matin c'est pareil. S'il y a des endroits à aller visiter, on va en visite, c'est tout.
Contacté par mail, le département de l'Essonne dit avoir été obligé d'héberger des jeunes en hôtel et travaille à réduire ces hébergements alternatifs. Théodore sort de sa poche les tickets repas que se partagent les 2 garçons.
5 euros.
C'est la seule contribution quotidienne du département. 5 euros par jour à dépenser, car les repas ne sont pas fournis dans l'hôtel où ils viennent d'être à nouveau transférés. Pour une durée indéterminée.
Amélie Beaucourt sur RFI. Et on va jeter un coup d'œil au programme qui vous attend dans l'heure et demie encore. La session soirée de l'info sur RFI se poursuit encore pendant 1h30. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi qui vous sera présentée par Sylvie Berruet. Et à la une, la question de la suite, à la réunion surprise qui s'est tenue hier à Doha entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Dans une demi-heure, ce sera le journal de 19h temps universel de Véronique Rigolet. 19h 7h10. Enfin, votre session reportage, comme chaque soir, pendant 50 minutes sur RFI. Accent d'Europe sera ce soir en Suède, où le boycott des produits américains monte en puissance. Et puis enfin, dans une heure, le grand reportage, ce soir, fraude en ligne et esclavage moderne, enquête sur les usines de cybercriminalité de Birmanie. Voilà pour le programme. Merci d'être à l'écoute de la Radio Mondiale. Ne bougez surtout pas. On revient dans 30 secondes.
RFI, la sélection du mois.
Dis-moi ce que tu as sur
Oscar
le cœur.
Emsch.
Ne laisse pas tout à l'intérieur. Franchis les frontières de tes peurs.
N'aie jamais honte de ressentir.
Ne le vois jamais comme un défaut.
Michael Bra.
RFI Musique.